Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Qu'est-ce que la littérature ? Ah, tiens, voilà une bonne question. Qu'est-ce que la lecture ? En voici une autre excellente. Peuvent-elles, littérature et lecture, vous aider lorsque la débâcle fait son apparition, lorsque la dépression, par exemple, pointe le bout de son nez ? Un peu de méditation, du yoga, de la philo, de la poésie, de la lecture. Voilà le programme pour ce soir. Le point commun de mes invités est qu'ils parlent d'eux quand ils écrivent, mais que leurs livres autobiographiques, loin d'être des hochets narcissiques, touchent à l'universel et, croyez-moi, résonneront longtemps en vous. J'accueille ce soir Emmanuel Carrère, Barbara Cassin et Pascal Quignard. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver et surtout de vous écouter échanger, parce qu'il me semble que vos trois livres, même s'ils parlent de vous, s'ils parlent des gens qui nous regardent ce soir, se parlent entre eux. Tiens, est-ce possible d'ailleurs que le livre se parle entre eux ? Vous allez nous le dire. Emmanuel Carrère, votre nouveau livre, Yoga, vient de paraître aux éditions POL. Vous y racontez notamment l'histoire de votre folie, votre séjour à l'hôpital psychiatrique, votre tentative d'écrire un livre, je cite, « souriant et subtil sur le yoga », qui devient un livre sur la vie empêchée. On trouve des échos, disais-je tout à l'heure, de votre démarche dans le très bel éloge de la lecture et de la littérature que propose Pascal Quignard, l'homme aux trois lettres. C'est aussi ce que l'on retrouve dans l'autobiographie philosophique de Barbara Cassin. Le bonheur, sa dent douce à la mort. C'est un vers d'Arthur Rimbaud. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous nous direz pour quelles raisons vous avez choisi ce vers très précisément. Je rappelle, Barbara Cassin, que vous êtes philosophe.
Il paraît, oui.
Mais aussi philologue.
Oui.
Pourriez-vous nous dire ce qu'est exactement la philologie ? Que fait au juste une philologue ?
Une philologue, comme un philologue, s'occupe du log. Il aime le log. Log, c'est logos, c'est-à-dire les textes. Logos, ça veut dire discours et raison. Mais c'est devenu là où c'est déposé, à savoir dans les textes. Et donc, un philologue s'occupe eh bien, de comprendre, d'éditer et de traduire des textes, en général anciens, mais pas seulement, et qui parfois ne l'ont pas été.
La langue, la lecture, l'écriture, ce qu'il y a sous les textes, nous allons en parler tout au long de cette émission. Emmanuel Carrère, allez, yoga, ça devait être au départ, je vous cite, un petit livre pas prétentieux, un petit livre souriant et subtil autour du yoga, de la méditation qui permet, paraît-il, de se délivrer de toutes les pensées parasites qui nous assaillent et puis qui nous empêchent de voir les choses comme elles sont. Mais au lieu de la délivrance, c'est la débâcle qui fait son apparition. Dépression, au point de vous conduire, Emmanuel Carrère, jusqu'à l'hôpital psychiatrique où vous êtes interné 4 mois. Électrochoc, demande d'euthanasie, tristesse, souffrance, vous le racontez dans le livre. J'ajoute que tout commence en réalité en janvier 2015, c'est-à-dire au moment des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Le résultat est ce livre impossible à lâcher et qui pose cette question : que faire quand une moitié de vous est l'ennemi de l'autre ? Et puis, livre qui raconte également la façon dont on affronte les ténèbres. Pas sûr qu'on en sorte toujours vainqueur, ni toujours grandi. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pourriez réellement écrire un livre souriant et subtil sur le yoga, sans être rattrapé ?
Ça me paraissait une visée, après tout, raisonnable. Et même, je pratique le yoga entendu dans un sens large, qui inclut les arts martiaux, des choses comme ça, depuis une trentaine d'années environ. Et ça avait suffisamment d'importance dans ma vie pour que je me sois dit que je pouvais peut-être faire quelque chose de cette expérience et écrire un livre qui, j'essaierais de dire ce que j'en sais. Je me disais aussi, il y a quand même beaucoup de gens que ça intéresse, le yoga, et qui peut-être seraient contents de lire un livre qui les aiderait à savoir un peu mieux ce qu'ils font en faisant du yoga. Et au fond, d'ailleurs, de cette visée, il subsiste tout de même là, le début du livre qui était...
Oui, et puis il y a des questions.
Ça a tourné... la vie a fait que ça a tourné autrement.
Mais je vous pose la question, parce qu'il n'y a pas que la vie qui fait que ça tourne autrement. Dans tous vos livres, Emmanuel Carrère, le point de départ est contrarié au bout d'une vingtaine de pages, et tout à coup, tout tourne autrement. Et on part vers autre chose. C'est le cas dans un roman russe, c'est le cas dans d'autres vies que la mienne, c'est le cas également dans Le Royaume. C'est d'ailleurs ça qu'on aime chez vous. Mais vous, vous étiez convaincu que, pour une fois, vous resteriez agrippé au rocher du yoga et de votre décision.
Barbara Cassin, elle dit à un moment, je ne sais pas dans quel terme exact, mais que la dissertation, c'est d'écrire quelque chose où on sait où on va et par où on va passer, et que vous, précisément, c'est exactement ce que vous n'aimez pas faire, ou que vous ne savez pas faire, ou que par chance vous ne savez pas faire, et que, au fond, pour le formuler autrement, il me semble que plus on s'éloigne de la visée... Je pense, il y a... François Truffaut disait un truc qui m'avait frappé. Il disait que dans tous les films était un processus de déperdition, qu'entre l'idée qu'on avait à l'origine... et qui était vraiment la chose sacrée et sanctuarisée, et le point d'arrivée, eh ben, si ça ressemblait à l'idée d'origine, à, je ne sais pas, à 80%, le film était réussi, et plus ça s'en éloignait, eh ben, plus c'était raté. J'admire beaucoup les grands cinéastes du contrôle, comme Truffaut, comme Hitchcock, comme Kubrick, mais il me semble, comme vous sans doute, appartenir à une famille tout à fait opposée, qui est celle des gens qui... Enfin, plus on s'éloigne de la visée de départ, plus ça devient quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, pas attendu, tout ça, plus d'une certaine manière on est content. Plus on se dit que c'est...
La vie n'est pas une dissertation.
Oui, enfin, que plus le chemin a été long, tortueux, tout ça, plus... mieux c'est.
Sous la plume d'Emmanuel Carrère, on peut comprendre cette envie, cette nécessité d'emmener le lecteur sur d'autres sentiers. Mais alors, Barbara Cassin, puisqu'Emmanuel Carrère faisait allusion à ce passage de votre livre, chez une philosophe, ça c'est très étrange. La dissertation, non. Pas ça, pas pour moi, diriez-vous. Qu'est-ce qui fait que, alors que tous les profs de philo nous disent il faut disserter, première partie, deuxième partie, troisième partie, vous, vous dites pas du tout. Je déteste ça.
Mais bon, peut-être que je ne suis pas une bonne philosophe. Ou peut-être que je ne suis pas une philosophe comme il faudrait que soient les philosophes. Simplement, je pense qu'en revanche, je suis une bonne prof de philo. C'est-à-dire que...
Et vous leur dites également pas de dissertation
Non, je n'ai pas été très souvent prof de philo dans des classes où il y avait des dissertations à faire, vraiment. Et par exemple, mes meilleures expériences de prof de philo, c'est avec des classes maternelles. Extraordinaire, ce qui se passe.
Ah, les maternelles.
Ah oui, extraordinaire. Quand on essaye de faire comprendre quelque chose à des enfants petits, par exemple, qu'on leur pose la question « Est-ce que tu es grand ou est-ce que tu es petit ?» et qu'ils vous répondent « Ouf, mon petit frère dit qu'il est grand, et c'est vrai. » Bon, ben là, vous y êtes en pleine philosophie. Il y a de quoi faire. Bon, voilà ce genre de choses. Ou alors avec des adolescents psychotiques, ou alors avec des énarques. C'est parfois pas très différent. Et donc... Et donc là, si vous voulez, il se passe des choses en philosophie qui n'ont rien à voir avec la dissertation, mais qui ont vraiment à voir avec la philosophie et avec son enseignement.
Qu'attendiez-vous, Emmanuel Carrère, de ce stage que vous allez faire, qui est, alors que vous nous l'avez dit, vous avez 30 ans de pratique, c'est un stage commando. Vous écrivez à un moment, c'est quand même la Corée du Nord.
Non, parce que, disons, c'est avec un point d'interrogation.
Oui.
Ce sont des... la méditation est une chose dont on parle beaucoup, à juste raison, je pense, c'est une... mais qui consiste, somme toute, à faire une chose très, très simple, c'est simplement à s'asseoir, à rester un petit moment sans bouger, en essayant de se mettre dans une position d'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ce qui se passe à l'intérieur de soi étant les pensées, les sensations, le contact entre l'intérieur et l'extérieur, tout ça. C'est juste regarder ça, en essayant d'être aussi... attentif que possible et de juger le moins possible. Voilà, ces pensées, de ne pas trouver que telle pensée est intelligente et telle pensée bête, considérer vous voyez, ça comme des espèces de micro-événements psychiques, des espèces de petites bulles qui crèvent à la surface de la conscience. Et en principe, ce à quoi ça vise, c'est que petit à petit, à la faveur de cette pratique, idéalement quotidienne, on se décolle un tout petit peu de cette espèce de marmelade de souvenirs, d'anticipations, de peurs, de choses comme ça qui composent ce qu'on appelle une identité, quoi. C'est une pratique très, très simple, à mon sens très, très bienfaisante, je ne suis pas le premier à le dire. Et il y a une école de méditation qui s'appelle Vipassana, qui existe partout dans le monde, qui est à mon avis très recommandable, mais qui pratique ça d'une façon effectivement très très soutenue, puisque ce sont des stages qui durent une dizaine de jours et où on passe 8 heures par jour en silence sur un petit coussin, entouré de gens à qui on ne parle pas.
Jamais.
Non, on ne parle pas et on décide, on ne peut pas avoir, vous voyez, de eye contact, de rien. Mais voilà, c'est une expérience un peu extrême, mais enfin, ça n'a rien d'effrayant non plus. Hein.
Mais moi, comme vous me dites ça, je trouve ça totalement effrayant.
C'est pas votre truc, de toute évidence.
Est-ce que c'est le vôtre, Pascal Quignard? Est-ce que vous vous sentez capable, 8 heures durant, d'affronter cela?
8 heures durant, non, je pense que ce type d'expérience est difficile, comme la psychanalyse, qui a à peu près les mêmes motivations.
C'est pas tout à fait le contraire.
Hein. Oui. Est une expérience périlleuse, que moi j'ai soutenue pendant une dizaine d'années. Qui m'a fait...
La psychanalyse ou le yoga?
La psychanalyse, qui m'a fait personnellement un bien fou, qui m'a même sauvé d'un désir de mourir, qui était tout à fait violent pour moi. Mais je ne pense pas, en effet, que ce soit indifférent de s'installer dans une expérience comme celle-ci. Ce n'est pas une porte ouverte au bonheur tel que vous le présentez au tout début du livre. C'est quand même une expérience plus rude que du pur bonheur.
On dit souvent, et ça, vous insistez beaucoup dessus, on dit souvent que la méditation, le yoga, aide à trouver la sérénité. C'est une idée que vous combattez d'emblée. En disant, c'est pas la recherche de la sérénité, on n'atteint pas la sérénité.
Comme dit Pascal Quignard, enfin, il dit que on n'est pas spécialement du côté du... Bonheur, ce n'est pas spécialement une recherche du bonheur, c'est plutôt une recherche de connaissance, d'un accès plus profond à soi-même et à ce qui vous entoure, au monde. Enfin, c'est une position, ça consiste à avoir des vues plus larges aussi. Enfin, donc non, le bonheur, j'allais dire que c'est, outre que bon, je n'ai pas une très grande expertise dans ce domaine, mais c'est... ça vient peut-être, vous savez, c'était ce que Lacan disait de la guérison en psychanalyse, que ça venait de surcroît, si ça venait. Et donc, moi, ce surcroît me suffirait amplement.
Évidemment, on est dans un livre d'Emmanuel Carrère. Que croyez-vous qu'il advint lorsqu'Emmanuel Carrère se rendit à ce stage? Eh bien, 4 jours plus tard, en janvier 2015, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo. Et l'hypercachère. Vous n'êtes au courant de rien. Vous comprenez que le lecteur peut se sentir aussi très troublé par cet endroit où vous vous rendez, coupé du monde, où vous n'avez aucun contact avec l'extérieur, où personne donc ne vous avertit de ce qui est en train de se passer, de l'événement. Vous n'êtes mis au courant de ce qui se passe que parce que la compagne de Bernard Maris, assassinée à Charlie Hebdo, vous demande de venir intervenir aux obsèques.
Ce qui fait que j'ai été, si on peut dire, exfiltré de cette... Non, il y a là, c'est vrai, quelque chose qui était perturbant, parce que je me souviens d'avoir, en effet, que quelqu'un est venu me chercher en me disant il s'est passé des drôles de choses dans notre pays, m'a raconté en plus ça complètement de façon extrêmement floue, et j'ai pris un taxi pour aller pour traverser pendant, je sais pas, 3 quarts d'heure le Morvan dans la nuit pour aller jusqu'à la gare de La Roche-Migène et reprendre le train pour Paris. C'était le chauffeur de taxi qui me racontait ce qui se passait.
Comme si vous saviez, d'ailleurs. Comme si vous étiez déjà au courant.
C'était une espèce d'impression d'apocalypse, là, véritablement. J'ai vraiment de cette traversée nocturne du Morvan avec ce type qui, d'ailleurs, très bien me racontait tout ce qui s'était passé et que tous ces gens autour de moi ignoraient. J'ai de cela un souvenir presque irréel, quoi,
Vous venez de dire le mot, parce que quand on vous lit, on se pose la question, où est le réel? Est-ce qu'il est du côté de ce yoga, de la méditation dont vous parlez? Est-ce qu'il est du côté, au contraire, de ce qui se passe, y compris de l'émotion qui a submergé tout le monde à ce moment-là? Vous dites, vous avez un sentiment d'irréel. C'est quoi le réel, à ce moment-là?
Ça me rappelle, une fois, il y avait eu un débat auquel j'avais participé sur Philippe K. Dick, écrivain de science-fiction, auquel j'ai consacré une biographie. Et comme toujours, quand il s'agit de Dick, ça partait dans tous les sens, on racontait des trucs très, très bizarres. Et à un moment, la modératrice a dit « Bon, attendez, il faudrait au moins qu'on s'entende un peu sur ce qu'on appelle la réalité, au moins entre nous. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Donc non, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si les disciplines du type méditation, ce n'est pas destiné à fuir le réel, c'est au contraire des voies d'accès au réel, a priori.
A priori.
Oui, enfin, a priori, vous avez raison.
L'arrêt des fluctuations mentales, à un moment vous en parlez très bien, est-il possible, quel but du yoga, hein, dites-vous, est-il possible quand on est écrivain? Est-ce que c'est souhaitable quand on est écrivain?
Alors ça, oui, enfin non, je veux dire, que ça soit le but du yoga, c'est vrai parce qu'on peut dire mille choses sur le yoga, sur la méditation et tout, mais dans le grand texte canonique sur le yoga qui a été écrit par Patanjali, on ne sait pas si c'est un peu avant, un peu après Jésus-Christ, mais en tout cas, il y a une définition très simple qui est le deuxième verset de Patanjali qui dit « Le yoga est l'arrêt des fluctuations mentales ». Alors, est-ce que c'est l'arrêt? Est-ce que c'est l'accalmie? Est-ce que c'est une espèce de, est-ce qu'il s'agit, disons, d'apprivoiser ces espèces de fluctuations perpétuelles, cette espèce de Babil intérieur perpétuel? En tout cas, c'est à ça que vise le yoga. Est-ce que c'est à ça que vise la littérature? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est, que la littérature fait certainement son miel de ce Babil intérieur, de ces fluctuations. Et donc, il y a une phrase que je cite comme ça, que je trouve formidable, qui est une phrase de Thomas Bernhard qui dit « Écrire, en fait, c'est pas très compliqué, il suffit d'incliner la tête et puis de laisser tomber ce qu'il y a dedans sur le papier. » Effectivement, il y a une espèce de façon de... C'est bizarre parce que c'est comme si c'était la même chose et le contraire, qu'il s'agit effectivement de suivre avec attention tous les mécanismes, toutes les fluctuations, tous les mécanismes psychiques. Et dans un cas, si on fait de la littérature, c'est quand même pour les retenir, pour leur donner forme. Mmh. Et dans l'autre cas, c'est pour justement les laisser passer sans s'y attacher. C'est effectivement deux visées contradictoires.
Contradictoires. Pascal Quignard, l'écrivain qui réussirait, qui parviendrait à arrêter justement toutes ces pensées parasites ou alors tout simplement ce bruit mental, serait-il encore un écrivain pour vous?
Mais non, je ne pense pas. Mais je pense que même pencher la tête ne me conviendrait pas du tout. Il y a quelque chose de proche dans le monde occidental. Et c'est la contemplation, c'est ce que les philosophes appellent la théorie. Et là, on se laisse absorber dans quelque chose que moi, j'éprouve de plus en plus sur la merveille de la nature, la merveille de l'univers. On se laisse engloutir. L'univers vous traverse et on devient tout à fait autre.
Sans que ça arrête, pardonnez-moi, les fluctuations mentales.
Ça les arrête un peu. Il y a une méfiance à l'égard du langage.
Ah oui.
Barbara Cassin est la spécialiste des sophistes, qui sont les premiers à s'être méfiés du langage. Et d'ailleurs, elle a écrit aussi un dictionnaire pour se méfier des mots qu'on pouvait employer. Vous voyez, on peut être un littéraire, ou être un philosophe, ou être un écrivain, c'est aussi, comment dire, prendre une distance qui permet d'aller ailleurs, comme vous le faites, mais aussi pour nous-mêmes, dans d'autres expériences. Moi, je vous jure, la contemplation, marcher une ou deux heures, ne songer qu'au parc dans lequel on... Regarder l'eau, vivre le ciel, c'est des choses... On devait d'ailleurs faire un livre sur le ciel. Sont des choses tout à fait... Oh, je les aime de plus en plus. Je n'ai pas de mots pour les dire.
Ah, mais oui.
Vous pensiez être tiré d'affaire, écrivez-vous, depuis une dizaine d'années. Plus de dépression à l'horizon, le succès public, critique de vos livres. Et voilà que vous êtes diagnostiqué. Bipolaire de type 2. De quoi s'agit-il exactement?
Je fais partie des gens qui ont ce qu'on peut appeler des fragilités psychiques, qui ont connu à plusieurs reprises des... comme vous, Pascal Quignard,
vous
parlez des dépressions assez, assez lourdes. C'est pas la même chose que des grands malheurs objectifs, mais c'est quand même quelque chose de très sévère, quoi. Et en effet, j'avais l'impression que c'était derrière moi, et j'ai un moment replongé dans ce qu'on appelle aussi, alors là c'est un terme technique psychiatrique, ce qu'on appelle une dépression mélancolique. Et à ce moment-là, le mot mélancolique ne veut pas juste dire qu'on est triste, quoi. C'est vraiment un truc.
Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que justement, on essaie de mettre les mots sur les choses que vous faites dans le livre. Que ressentez-vous à ce moment-là?
Peut-être dans un gouffre. Qu'est-ce que vous diriez, Pascal? Qu'est-ce que vous diriez?
Il faut en parler comme un comportement, parce que ça en est fait un gouffre. Et le comportement est en effet minimal.
On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne deviennent indescriptiblement lourds et impossibles, en difficile ou même impossibles à accomplir, ce qui fait que on se met à ne plus sortir de son lit, où on est là à macérer dans une espèce de sueur inquiète. Enfin, c'est tout de même quelque chose d'épouvantable. Et puis en plus, je pense qu'aussi un trait de la dépression, c'est que on est convaincu qu'on n'en sortira jamais.
Le premier symptôme d'une dépression, c'est qu'on ne peut plus lire, on ne peut plus avoir accès à quoi que ce soit, on ne peut même plus écouter de la musique. Tout devient inatteignable. Oui, on n'est plus que sa propre peur.
C'est ça, oui, je pense qu'effectivement, c'est la peur qui définit ça. Je pense que c'est la peur qui est le centre de ça. Ouais.
La peur de quoi ? Vous le savez ?
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de peur à l'état pur. On n'a pas peur de quelque chose. Tout à coup, on ne devient plus qu'une espèce de bloc de peur, d'angoisse.
On a un peu peur de la crise d'angoisse suivante et de se jeter par la fenêtre quand même. On a peur de se jeter par la fenêtre.
Ouais.
Donc, il y a un petit risque là.
Oui, il y a un risque réel, oui, effectivement. Si autrement, on en sort, mais...
Qu'est-ce qui déclenche, à défaut d'expliquer, cette dépression ?
Alors, il y a des circonstances personnelles sur lesquelles je suis assez évasif dans le livre.
Vous n'en parlez pas beaucoup.
Oui, parce que ça ne concerne pas que moi et que j'ai préféré de dire...
Non, mais je comprends, elles existent, on sent qu'elles existent
Bien sûr. Mais voilà, j'ai préféré les éluder. Et puis,
vous le dites d'une ligne, tout de même.
Comment ?
Vous l'écrivez en une ligne, une phrase plus exactement.
Ouais, je dis quoi ? Que pour moi, il y a quelque chose qui est omis ou gommé, et par souci de ménager d'autres que moi, voilà.
Vous employez l'expression rupture amoureuse, toutefois.
Je ne vais pas dire plus dans une interview que je ne dis dans ce livre.
Je ne cherche pas du tout à vous dire, vous en faire dire plus. Intéressant, pardonnez-moi, c'est que tout le livre tourne autour d'une idée très forte que l'on retrouve aussi dans le livre de Barbara Cassin. La littérature, écrivez-vous, c'est la littérature telle que je la pratique, moi, Emmanuel Carrère, est le lieu où on ne ment pas. Et tous vos livres précédents étaient des livres dans lesquels vous imposiez ce devoir de vérité.
Y compris pour raconter l'histoire d'un grand menteur, comme c'était le cas de Jean-Claude Roman, le protagoniste de mon livre L'Adversaire.
Qu'est-ce qui fait que, tout à coup, pour la première fois dans votre œuvre, vous ne dites pas tout ?
Je vous l'ai déjà dit, d'abord, je ne dis pas tout parce qu'il y a d'autres personnes que ça concerne dont je n'ai pas, envie d'étaler l'intimité.
Mais ça, vous l'aviez déjà fait avant.
Oui, mais j'avais pas envie de
le refaire. Vous aviez brisé ça
déjà fait,
avec un roman russe.
Oui, mais j'avais pas envie de le refaire, justement.
Ou votre mère était quand même pas très contente de ce que vous aviez écrit.
Précisément, je l'ai fait une fois.
D'accord.
Et ça concernait aussi ma compagne de l'époque, Sophie. Et justement, j'ai vraiment l'impression, là, d'avoir fait quelque chose qui était pas bien, quoi, tout simplement. D'avoir franchi une ligne que je n'aurais pas dû franchir. Et je me suis dit que ça, je recommencerai pas. Voilà. Et donc, je l'ai pas fait, là.
Avez-vous le sentiment que ça a été une barrière pour vous en tant qu'écrivain ? Un mur.
Non, j'ai à un moment menti par omission et ça va. Et il y a d'autres choses. Et alors cela dit, il y a d'autres petites incursions dans la fiction dans ce livre que j'avoue d'ailleurs.
Lesquelles ?
Il y a un personnage à un moment de ce livre, je me trouve dans l'île grecque de Léros, où je me suis un peu associé à un moment avec des humanitaires, quoi, qui s'occupaient, comme on dit, d'aider des jeunes migrants du Moyen-Orient ou de la Corne de l'Afrique. Et il y avait là une femme avec qui j'avais vraiment beaucoup sympathisé et que pour qui j'avais beaucoup d'affection, mais je me suis dit que j'allais pas, que écrivant sur elle, je voulais pas courir le risque de l'offenser. Et donc, à partir du moment où j'ai changé son nom, je me suis aperçu d'une chose, c'est que on change le nom et la fiction on commence à dévaler la pente savonneuse de la fiction immédiatement.
Rien qu'en changeant le nom.
Non, mais ce n'est pas rien que, c'est que le nom propre est central. Une fois, je me souviens,
Ça, c'est génial, quand même, ce qui vient d'être dit par Emmanuel Carrère.
Christine Angot avait dit un truc que j'avais trouvé formidable. Elle avait... On lui avait fait... Elle avait écrit un livre où elle disait pique-pendre de gens, et l'avocat de la maison d'édition avait dit, écoutez, non, vous êtes obligé de changer les noms. Et elle disait, OK, je les change, mais dès qu'on change les noms, c'est moins bien. Et il y a quelque chose de vrai, hein, là-dedans. Alors maintenant, en contrepartie, il y a qu'on s'accorde la fiction. Et là, je me le suis accordé et je me suis aperçu, alors que je n'avais pas fait de fiction depuis plus de 20 ans, que j'y ai pris plaisir.
Eh ben oui, et dans le roman, quand plaisir. On lit, alors là, vous venez de nous révéler que
il n'y en a pas beaucoup, hein, disons, ça doit représenter, je ne sais pas, 5%.
Non, mais vous pouvez y aller plus. Il y a un mystère chez vous sur le mensonge et la vérité. Mais pourquoi croyez-vous à la vérité comme ça ? Barbara et moi, on n'y croit pas beaucoup.
Enfin, en tout cas, la vérité avec un grand V, mais lui non plus. Avec un grand V, je ne suis pas sûre qu'il mette une majuscule.
Non, mais enfin, non, c'est très bien, c'est très beau tout ce que vous dites sur le fait que vous êtes absolument hostile à la vérité avec un grand V, comme toutes les. Mais moi aussi, je sais que vous avez raison. Mais il y a une espèce de. C'est peut-être une espèce, je ne sais pas, presque de superstition à la fois littéraire et morale, enfin, qui est de se dire. C'est de se dire, on ne ment pas. Mais inventer, c'est pas mentir. Je suis bien d'accord avec vous si vous me dites ça.
Qu'est-ce qui est grave de mentir ? Qu'est-ce qui est immoral de mentir ? Il faut mentir.
Mais jusqu'où ?
Les aventures d'Ulysse, ce n'est que du mensonge.
Oui.
Vous dites vachement bien.
Mais oui, elle dit.
Le mensonge est un art de combat.
Oui. Et qu'il se démerde.
Oui, qu'il se démerde.
Qu'il se démerde.
Mais est-ce que le fait de vouloir la vérité, c'est lié au yoga ?
Il est vrai que le yoga. Le yoga entendu au sens large,
oui.
C'est une discipline d'unification. Mais l'unité, c'est peut-être pas un but formidable. Je me disais, en vous lisant, quand vous dites aussi que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un et qu'on a toutes les raisons de s'en méfier. L'unité, la vérité, c'est peut-être non seulement des grands mots dont il faut se méfier, mais des choses après quoi il n'y a pas besoin de courir. Maintenant, vous voyez, je dis ça parce que je suis en face de vous et que je suis toujours un peu de l'avis du dernier qui a parlé. Quoi.
Emmanuel Carrère, est-ce que ça change quelque chose à votre conception de la littérature ? Il y a toujours eu cet impératif, peut-être pas moral, mais comme un impératif d'écrivain, dire le vrai, une littérature du réel. Cassin, vous demandez si ça venait du yoga, j'ai envie de vous demander si ça vient de vos années journalistes.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, ça vient davantage du journalisme, où on est quand même supposé dire, sinon une espèce, vous voyez, de vérité absolue philosophique, mais des choses exactes.
Je reviens à la littérature, car vous confiez, page 85, que l'obsession de votre jeunesse, Emmanuel Carrère, était, je cite, « devenir un écrivain original ». Avez-vous réussi ?
Ça
fait sourire.
Non, mais bien
Cassin.
Sûr, ça fait sourire. C'est des rêveries très enfantines. C'est un idéal du moi très enfantin. Qui est un peu bêtasson certainement. Et c'est certainement pas le. Et puis en même temps, je sais pas. C'est quand on est petit, on rêve de devenir, pompier ou général ou un truc comme ça. Et puis il y en a qui rêvent d'être écrivain. Et à ce moment-là, tant qu'à faire, grand écrivain. J'étais comme ça et au fond, je le suis toujours. C'est un peu pathétique, mais c'est comme ça.
Et vous cherchez, écrivez-vous également, à devenir un être meilleur. Est-ce qu'un être meilleur fait un meilleur écrivain ? Par exemple, si je vous donne le choix entre être quelqu'un de bien, bien dans votre tête, et être le meilleur écrivain de votre génération, que choisissez-vous ?
Oh là là ! Oh là là ! Quelqu'un de bien, je ne sais pas, mais quelqu'un d'heureux. Est-ce que j'ai le droit de modifier un peu la question ? Parce que quelqu'un d'heureux, ça serait aussi quelqu'un à qui serait totalement étrangère cette espèce d'obsession d'être un grand écrivain. À ce moment-là, je choisis d'être quelqu'un d'heureux. Mais pas un quelqu'un d'heureux qui aurait l'impression d'avoir sacrifié quelque chose, parce que sinon, on n'est pas heureux.
Vous employez à l'oral le mot bonheur, Emmanuel Carrère.
Oui.
Je veux bien le relire, mais je n'ai pas vu souvent, je crois bien ne pas l'avoir lu, ce mot.
Il n'abonde pas sous ma plume.
Ni le mot bonheur, ni le mot heureux.
Ouais.
Mais là, tout à l'heure...
C'était aussi une des choses qui me rendait si... Euh, si aimable le livre de Barbara Cassin. Enfin, et d'ailleurs, ce que je vois de la personne de Barbara Cassin, c'est il y a chez vous, alors que je veux dire, vous n'avez, comme tout le monde, pas été épargné par des malheurs ou des choses comme ça, mais une disposition au bonheur que je trouve.
C'est vrai, oui.
Est-ce que c'est une disposition ?
Je peux raconter un truc, oui, du livre de Barbara Cassin. Il y a parmi énormément de choses que j'ai, qui m'ont touché, ému, il y en a une qui m'a émerveillé. Vous racontez que vous êtes petite fille, vous avez 3 ou 4 ans, quelque chose, et vous êtes au lit et vous êtes chez vos parents, et il y a à côté la salle à manger ou la cuisine où sont les adultes, c'est un dîner d'adultes, il y a du monde, ça parle, ça rit, enfin il y a une espèce de rumeur de dîner joyeux, et puis vous vous levez parce que vous ne dormez pas et vous allez retrouver la société. Et on vous prend sur les genoux, on vous parle tout en continuant à parler, tout ça, puis au bout d'un moment, on vous remet au lit. Et puis, vous ne dormez pas. Vous y retournez. Et de nouveau, on vous prend sur les genoux sans en plus sans s'occuper spécialement de vous, mais voilà, vous êtes avec les autres, tout va, c'est facile, c'est naturel, et au bout d'un moment, on vous remet au lit. Et puis vient le moment où vous dites, si petite que vous soyez, vous vous dites quand même, la troisième fois, ça risque de pas bien se passer, quoi. On va dire, non, attends, c'est pas possible, quoi. Puis vous y allez, et puis on vous accueille, on vous prend sur les genoux, et ça se passe comme ça. Et vous vous dites, mais au fond, ça pourrait se faire à l'infini.
Ben oui, il compte pas.
Non, mais il y a quelque chose d'absolument magnifique et merveilleux qui est, je dirais, qui, vous le dites vous-même, explique tout ce que vous êtes. Et d'une certaine manière, qui est c'est la scène fondatrice qui était le contraire de celle de Proust. Oui. Qui, malgré tout, la scène fondatrice, c'est il attend sa mère qui doit venir l'embrasser, elle ne vient pas. Oui. Et après ça, il tisse l'espèce de tapisserie des mille et une nuits de la recherche du temps perdu, à partir de ce truc-là. Mais ce moment-là, cette chose sur la, une espèce de don sans limite, de façon d'être absolument les bras ouverts, il y a quelque chose que j'ai trouvé magnifique là-dedans, mais magnifique.
Oui, bah c'est vrai que je me suis aperçue qu'il ne comptait pas. Il n'avait pas compté.
Il ne comptait pas.
C'est ça.
Il n'y a pas, non, ok, 3 fois, ça suffit.
3 fois, bah non. Non.
Mais est-ce ils que c'est ça compté. La disposition au bonheur, ne plus compter?
Bah, il y a de ça quand même. En tout cas, en amour, il y a de ça.
Mais Emmanuel Carrère, quand vous parlez de votre enfance, n'en parlez pas très souvent, mais tout de même, si, vous levez le voile sur une chose qui était exactement l'inverse. Par exemple, lorsque vous entendez, enfant, cette voix.
Le chant du coq enroué monta d'une métairie. Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre, et la mangea.
Fernandel qui
la chèvre, de Monsieur Seguin. Alors ce truc, effectivement, là, c'est très beau, hein, la chèvre de Monsieur Seguin, comme beaucoup des contes de Daudet, hein, qui sont vraiment magnifiques. Et c'est tout de même une histoire, comme d'ailleurs beaucoup de contes de Daudet, très dure, très cruelle, enfin, qui raconte l'histoire de cette chèvre aventureuse qui part de s'ébattre dans les collines pendant que les autres restent tranquillement dans l'enclos et qui le paye cher. Enfin, c'est-à-dire qu'il le paye à un moment. Elle lutte contre le loup, ce qu'on nous dit. On a du mal à se représenter exactement ce que c'est que de lutter contre le loup. Mais je me souvenais vraiment. Vous voyez, je l'avais jamais réentendu. Mmh. J'avais ce disque où Fernandel lisait le conte de Daudet. Et je me souvenais comme son accent méridional, qui en principe est bon enfant, sympathique, tout ça, était extraordinairement menaçant dans la fin de ce conte, quand il disait « Et au matin, le loup la mangea ».
Vous racontez même dans le livre que pour vous, c'est l'effroi.
Ah, c'était l'effroi pur, ouais. Oui.
C'est vous, la chèvre? C'est-à-dire cet écrivain qui veut à tout prix sortir, être original, ne pas faire comme les autres, qui va à droite, à gauche, qui gambade et qui, jusqu'au lever du jour, se bat, et finit par être mangé au point qu'il se retrouve à l'hôpital psychiatrique.
Écoutez, je n'aurais pas songé à cette interprétation sauvage, mais, mais elle se tient.
On a le sentiment, à vous lire, que vous expérimentez tout,
vous racontez cela de l'intérieur, mais qu'au fond, rien ne marche jamais vraiment. Comment l'expliquez-vous ?
Bah, rien ne marche jamais vraiment, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas des.
C'est pas tout à fait faux non plus.
Oui, mais ça voudrait dire quoi, marcher vraiment, faire de vous un être harmonieux et accompli.
En avez-vous seulement l'envie ?
Je ne serais sans doute pas contre, mais enfin, je me suis fait à l'idée que ce n'était pas exactement ma voix, quoi, et que ça n'empêchait pas. Attendez, ça n'empêchait pas d'être, à certains moments de sa vie, heureux,
drôle,
joyeux,
sarcastique.
Voilà, ça va. Je veux dire, je ne passe pas ma vie à Sainte-Anne. Hein. Mais je raconte ce moment.
Il y a des moments de joie hein, dans ce livre. En voici un grand, un beau, et que vous partagez avec le lecteur qui n'a qu'une envie, évidemment. C'est de regarder ce que je vais vous montrer. Que ressentez-vous, Emmanuel Carrère, lorsque vous voyez le sourire de Martha Argerich jouant l'héroïque de Chopin ?
Ouais, c'est un instant merveilleux. Ça dure 2 ou 3 secondes. Vous voyez, c'est un moment. Elle se laisse porter par la mais vraiment comme un surfeur prend la vague. Elle sort du cadre et elle revient avec cette espèce de sourire qui vient, je sais pas, à la fois de l'enfance, de la musique, qui est vraiment une image de joie pure, quoi. Et par ailleurs, je trouve ça très satisfaisant de me dire que, pour autant que je sache, Martha Argerich, qui est une femme de génie, mais est très raisonnablement névrosée, sa fille a fait un film sur elle en disant vraiment qu'elle était impossible, tout ça. Donc, voilà, je veux dire, là ces moments de joie nous sont accordés à nous autres bipolaires et gens qui sommes assaillis par des chiens noirs, comme disait Winston Churchill à propos de la dépression.
Vous avez employé le mot joie. Voici 2 propositions philosophiques tirées de Yoga d'Emmanuel Carrère. Laquelle choisissez-vous ? La joie est plus profonde que la tristesse. Nietzsche.
Nietzsche, ouais.
La tristesse durera toujours.
Van Gogh.
Nietzsche ou Van Gogh ?
Alors, on a très envie. Enfin, déjà là, il y a une espèce de volontarisme, quoi, de la joie qui me fait toujours un peu peur, quoi. C'est moi, par ailleurs, la tristesse durera toujours. C'est une espèce de truc de conformation psychique à laquelle je peux pas grand chose. J'ai tendance à voir les choses comme ça, c'est-à-dire. Mais je sais pas. En réalité, je sais pas du tout. Vous avez certainement Barbara Cassin.
Mais non, moi, je n'ai pas du tout envie de choisir. Je trouve que ça va très bien ensemble.
Vous prenez les deux ?
Bah oui, mais elles
vont
très
voilà.
bien ensemble.
Elle a fait la bonne réponse, évidemment.
Non,
évidemment.
Je ne suis pas d'accord, sauf le toujours. Le toujours ne sert à rien.
Ouais.
Le mot toujours ne sert à rien.
D'accord.
Non.
Bon, alors, en s'y mettant à 3, je trouve qu'on peut arriver à être d'accord. On peut arriver à dire un truc pas trop idiot. Ouais.
Mais alors, vous parliez de la joie comme d'une volonté, d'un volontarisme de la joie, mais vous avez vu tout de même la joie spontanée sur le visage de Martha Argerich. Et alors, peut-être qu'on n'a pas vu, mais Adrien Solan, le réalisateur, peut faire un gros plan sur Pascal Quignard, car au moment même où arrivait le sourire, je vous ai vu sourire, vous aussi, Pascal, et là, on avait le sentiment que vous étiez inondé de joie.
C'est la musique qui la prend et qui nous prend, parce qu'elle le joue à ce moment-là. Elle est heureuse d'y aller.
Oui, elle est heureuse.
On la ressent.
Qu'est-ce qui vous met en joie ? Est-ce que c'est un effet de la volonté ? Est-ce que c'est un effet du hasard ? Ou tout simplement de ce que vous entendez, de ce que vous voyez ?
Non, c'est en effet quelque chose qui doit demeurer incontrôlable. Cependant, on peut la travailler. On peut travailler de la joie.
Mmh. Je ne sais pas trop ce que c'est que la joie, moi.
C'est quelque chose qui surgit.
Mais tout surgit tout le temps, donc tout est joie. Pour moi, tout surgit tout le temps.
C'est le rêve. Maintenant, vous êtes complètement joyeuse.
Alors peut-être.
Mais c'est un peu l'impression qu'on a en lisant votre livre.
Ah oui.
Ce qui fait que vous êtes un peu une martienne pour moi, mais ça m'inspire une immense sympathie. Oui.
Yoga, le nouveau livre d'Emmanuel Carrère vient de sortir. C'est aux éditions P-O-L. Avant d'ouvrir les livres de Barbara Cassin et de Pascal Quignard, je vous propose de lire à voix haute. Notre grand concours de lecture, Si on lisait à voix haute, a été, vous le savez, un très grand succès, un très beau succès. Nous lançons la deuxième saison dans quelques jours. Je vous dirai où et comment vous inscrire, mais en attendant, et pour vous donner envie de participer à ce concours qui s'adresse, je le rappelle, aux jeunes de la 6e à la terminale, eh bien, je vous propose de voir ou de revoir la lecture d'un des finalistes. Il s'appelle Antim Huyg, il est élève au lycée Jean Moulin, à Châteaulin. Alors, il était en première, il est désormais en terminale, et il avait choisi un extrait du Voyage au bout de la nuit de Céline. Regardez.
Les riches n'ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler, les gens, comme ils disent. Ils ne font pas le mal eux-mêmes, les riches. Ils payent. On fait tout pour leur plaire et tout le monde est bien content. Pendant que leurs femmes sont belles, celles des pauvres sont vilaines. C'est un résultat qui vient des siècles. Toilette mise à part. Belle, mignonne, bien nourrie, bien lavée. Depuis qu'elle dure, la vie n'est arrivée qu'à ça. Quant au reste, on a beau se donner du mal. On glisse, on dérape, on retombe dans l'alcool qui conserve les vivants et les morts. On n'arrive à rien. C'est bien prouvé. Et depuis tant de siècles, qu'on peut regarder nos animaux naître, peiner et crever devant nous sans qu'il leur soit arrivé à eux non plus. Jamais rien d'extraordinaire que de reprendre sans cesse la même insipide faillite où tant d'autres animaux l'avaient laissée. Nous aurions pourtant dû comprendre ce qui se passait. Des vagues incessantes d'êtres inutiles viennent du fond des âges mourir tout le temps devant nous, et cependant, on reste là. À espérer des choses. Même pas bon à penser la mort qu'on est. Les femmes des riches, bien nourries, bien menties, bien posées, elles deviennent jolies. Ça, c'est vrai. Après tout, ça suffit peut-être, on ne sait pas. Ça serait au moins une raison pour exister.
Ils sont incroyables, je trouve, ces jeunes, 140 000 jeunes qui se sont inscrits à ce concours de lecture à voix haute, 12 finalistes, et puis vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site France.tv, une vainqueur. Je voudrais qu'on ouvre ce livre, alors qui fait tellement de bien à Emmanuel Carrère et qui fera, je crois, beaucoup, beaucoup de bien à tous ceux qui le liront. Le bonheur, sa dent douce à la mort. C'est aux éditions Fayard, autobiographie philosophique, Barbara Cassin, dans laquelle on apprend énormément de choses. Alors évidemment, sur vous, c'est le principe d'une autobiographie, mais pas seulement, également sur la vérité et le mensonge, alors j'aimerais qu'on y revienne, sur la fidélité, sur le langage, sur la bonté et la méchanceté. Je rappelle, Barbara Cassin, que vous avez travaillé avec les enfants psychotiques, vous avez côtoyé Heidegger et René Char, vous avez participé à la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, à la création d'un vocabulaire européen des philosophies, à un dictionnaire des intraduisibles également, voilà, qui resitue un peu cette vie, j'ai pas envie de dire carrière, mais vie, hein, qui est quand même plus jolie, je crois. Oui. Vous écrivez cette phrase qui résume bien, je trouve, votre parcours. Dès le début de mon enfance, je retiens que tout est possible. À une époque, Barbara Cassin, la nôtre, où on ne cesse de nous dire « Oh là là, ça va être compliqué, tout va mal, plus rien n'est faisable, plus rien n'est possible, ayez peur, principe de sécurité », vous maintenez ? Tout est possible ?
Oui, bien sûr, mais pas n'importe quand, n'importe comment, selon n'importe quelles conditions. On a à choisir entre les possibles, mais je pense que tout est ouvert, oui. Et qu'on est responsable de ce qu'on choisit.
Quel que soit le milieu d'où on est issu.
Oui, pas exactement au même moment, mais on ne parle pas tous la même langue, on n'a pas tous le même type de famille, etc. etc. Mais simplement, je pense que oui, à chaque instant, tout est possible. Beaucoup plus de choses sont ouvertes qu'on ose se le dire.
Une figure plane au-dessus de votre famille, Cassin. C'est un nom qu'on connaît. Celui de René Cassin.
Oui.
Prix Nobel de la paix.
Oui.
Vous racontez une rencontre avec le grand homme, assez décevante.
Moi, je ne le connaissais pas. Je veux dire que mon père a été en partie élevé avec lui parce que le père de papa a un peu élevé René Cassin quand le père de René est mort. Donc, ils étaient cousins. Voilà. Mon père était cousin de René Cassin. Moi, j'étais, je ne sais pas comment ça s'appelle, petite nièce ou un truc comme ça. Et donc, à un moment donné de ma vie, après 1968, je voulais faire de la philo, mais je ne savais pas très bien comment. Je ne savais pas très bien comment je voulais faire, ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais devenir dans la vie. Je ne savais pas si j'avais envie d'être éditrice, pourquoi pas, d'écrire, enfin bon, j'en sais rien. Bon. Et mon père m'a dit, ben, va voir René. Donc, j'ai été voir René, qui m'a accueillie de la manière suivante. « Bonjour, tu es la fille de Pierre. Pierre, c'est le seul type bien de, de la famille. Il ne m'a jamais rien demandé. Qu'est-ce que tu veux ?»
Bon, quelle grande leçon de philosophie.
C'était parfait.
Oui. Le titre de votre autobiographie philosophique est tiré d'un vers de Rimbaud. Comment le comprenez-vous, ce vers que je vais vous laisser dire, Barbara Cassin ?
« Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'avertissait au chant du coq, ad matutinum, au Christus venit, dans les plus sombres villes. » Ce vers m'a réveillé plusieurs fois dans ma vie. C'est-à-dire que, justement, matin, j'étais réveillée par ce vers. Et je l'aime, ce vers, parce qu'il dit vraiment ce que je crois très profondément de la doublure entre le bonheur et la mort.
Que vous liez intimement. Hein.
Oui, c'est-à-dire que non, enfin, en tout cas, quand on est heureux, c'est facile de mourir. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça que je pense. Et très récemment, mon frère est mort. Et le dernier coup de fil que nous avons eu ensemble, il m'a dit, mais je peux mourir parce que je suis vraiment heureux. Il avait retrouvé une femme, il avait maintenant pour compagne une femme qu'il avait aimée quand il avait 15 ans ou 16 ans. Et qu'il avait retrouvé un bridge. Voilà. Donc, il a vécu avec son premier amour la fin de sa vie. Et pour lui, c'était le bonheur. Et donc, le bonheur, sa dent douce à la mort, ça s'est prouvé. Et ça s'est prouvé pour moi tout le temps.
Vous le racontez beaucoup avec votre mari. Il y a des très belles pages où vous revenez sur la mort de votre mari, Étienne. Pourquoi le bonheur, dans ce cas précis, a-t-il partilié avec la mort?
Il n'y a rien de plus épouvantable qu'un cancer du cerveau. Il n'y a rien de plus atroce. Et dans des moments aussi atroces que la lente agonie de quelqu'un qu'on aime et qui est atteint d'un cancer du cerveau, dans un moment où tout devrait être atroce, nous étions heureux. C'est-à-dire qu'il était heureux, j'étais heureuse et les enfants étaient heureux. Ou du moins, c'est le mot qui me venait. Et vraiment, on pourrait dire une contradiction. Enfin bon, c'est une émotion incroyable d'arriver à être heureux dans des moments aussi tragiques.
Qu'est-ce qui l'autorise? Qu'est-ce qui le permet? Emmanuel Carrère, tout à l'heure, parlait, oui, en vous concernant, d'une disposition, ou d'une prédisposition au bonheur. Mais là, pour réussir cela...
Ce qu'il permet, c'est que, disons, la mort, la maladie, l'agonie, l'amour étaient liés et, au fond, font une vraie distorsion de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'avec très peu de jours, très peu d'instants, mais une immense complicité, eh bien, l'espace-temps arrive à devenir cosmique. On est dans le monde et on est dans quelque chose qui ressemble à l'éternité, la sempiternité, je ne sais pas, quelque chose qui ne se mesure pas. Et donc, on échappe à la mesure tragique du moment.
Diriez-vous que cette capacité à échapper à la mesure tragique du moment, mais aussi à vivre le bonheur, vient du rapport que vous avez établi ensemble aussi avec votre mari au mensonge et à la vérité?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que ça a à voir avec notre liberté, ça c'est sûr. Et alors on peut être libre par rapport à la vérité, par rapport au mensonge, par rapport à la fidélité, par rapport à tout ce que vous voudrez. Donc on était des êtres libres et on avait un rapport libre. Et j'espère que les enfants se sont sentis libres. Et en fait, j'écris ce livre aussi pour qu'ils se sentent libres.
Libre, ça veut dire qu'il y a une chose que vous avez toujours refusée, c'est le mono. Expliquez-vous.
Oui.
Monogame, monothéiste. Oui. On peut faire la liste, hein, vous la faites d'ailleurs. Oui. Page 57. Je ne veux pas de l'un, de l'unique, un avec un U majuscule.
Oui.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'incompatibilité entre vos aspirations?
Parce que pour moi, c'est du danger public, l'un, l'unique. C'est un danger public.
Y compris en amour?
Ah oui, bien sûr. Dans tout, et en religion aussi. Je veux dire, que de crimes on commet en ton nom, Dieu avec une majuscule, évidemment. Moi, si j'étais quelque chose, je serais païenne, c'est-à-dire polythéiste. Pour moi, l'une des choses les plus justes du paganisme, c'est justement dans Homère, vous parliez d'Homère tout à l'heure, c'est que la personne qui arrive en face, elle peut toujours être un dieu. Ça, alors, essayez de faire ça avec la Bible, c'est plus compliqué. Mais bon, la personne qui arrive en face peut être un dieu. Et Ulysse dit à Nausicaa que tu sois femme ou déesse. Nausicaa répond, tu ressembles à un lion des montagnes, mais maintenant tu ressembles à un dieu des champs du ciel. Et Ulysse lui répond, ah, j'ai jamais vu de femme aussi belle. Si peut-être un palmier, le jeune fût d'un palmier dans l'île de Délos. Voilà, ça pour moi c'est cosmique et c'est de l'ordre du bonheur. Et c'est de l'ordre du multiple, vous l'entendez bien, tout le temps.
Quand on va un peu plus loin, il y a une réflexion passionnante sur la vérité. Parce qu'évidemment, avec ce que vous venez de nous dire, on comprend tout de suite que vous vous méfiez aussi de cette fameuse vérité qu'évoquait Emmanuel Carrère tout à l'heure. La vérité avec un V majuscule, comme c'était l'universel, toujours avec un U majuscule. Et vous dites, la vérité unique, c'est l'idéologie. Car l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. L'universel qui arrange celui qui dit, voilà l'universel,
oui.
Le désigne comme tel.
Oui, c'est vrai.
Bah, attendez, si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est que c'est pas vrai.
Mais si, ça veut pas dire que...
Oui, vous venez de le dire, c'est vrai.
Mais vous
alors,
voyez,
qu'est-ce qui est vrai?
Vous voyez, là, vous me parlez comme si vous étiez Aristote. Et moi, je vous réponds comme une sophiste. C'est-à-dire que vous me dites, oh, c'est contradictoire. Pas possible, c'est faux. Non, c'est contradictoire et c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que bougez un petit peu vos notions de vérité, et si je vous dis c'est contradictoire et c'est vrai, vous êtes obligé de convenir que vérité n'a pas un grand V, et qu'il n'y en a pas qu'une. Et donc là, on va être d'accord.
Alors de cet éclaircissement sur l'un puis sur la vérité, vous arrivez à un passage que je trouve là aussi formidable et tellement peu commun, sur l'éloge du mensonge. Le mensonge, plus exactement, un art de combat, écrivez-vous. À quelles conditions, Barbara Cassin, le mensonge est-il non seulement autorisé, mais aussi requis?
Vous savez, dans ce livre, je me suis accrochée à des phrases qui m'ont marquée. Et ces phrases, j'ai essayé de comprendre comment elles déterminaient ce que je pensais, aujourd'hui, comme philosophe qui écrit des livres.
Ce sont souvent des phrases entendues dans l'enfance,
voilà.
Ou alors dans... un récit familial.
Voilà. Et par exemple, là, ce qui me fait dire que le mensonge est un art de combat, c'est une scène que ma mère me racontait. Ma mère était peintre. Elle me peignait, et pour voir mes yeux, comme elle voulait prendre mon expression, elle me racontait des histoires, elle me racontait sa vie, elle me racontait la guerre, par exemple. Et elle me disait que mes parents étaient juifs, donc l'un comme l'autre, réfugiés dans le Béarn. Donc, les Allemands sont arrivés, ont frappé à la porte de la maison, et maman a été leur ouvrir. Je pense qu'elle était... Enfin, moi, j'ai vu des photos d'elle à cet âge. Elle était vraiment magnifique. Donc, elle s'est encadrée dans la porte. Les Allemands lui ont dit, « Madame, on sait que vous, vous allez à l'église, mais votre mari, il est juif. » Et ma mère leur a répondu, « Moi, épouser un juif? Jamais !» Et ils sont partis. Voilà. Eh bien... je dis que le mensonge est un art de combat. Et ça, c'est le contraire de ce que prône Kant dans la loi morale, qui est, il faut que ça puisse devenir la maxime de ton action. Elle doit
maxime
pouvoir
universelle.
Devenir... ouais, une loi universelle. Donc, si toi tu mens, tout le monde va mentir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, le mensonge est un art de combat. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit mentir tout le temps. Mais ça veut dire qu'il faut savoir s'en servir.
Vous voilà. Insistez d'ailleurs, c'est très important, là vous l'avez magnifiquement dit, mais vous insistez sur la manière dont on doit dire son mensonge.
Oui.
Parce que si on avait dit, ah oh bon non, oh non bah moi je ne vais pas épouser un juif.
Mon mari, ah bon non, il n'est pas juif. Ah non, ça ne marchait pas.
Ouais.
Ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis que c'est un art de combat.
Vous l'évoquez, donc je me permets de vous poser la question. Dans la fidélité, le mensonge est-il acceptable? Vous dites à un moment que le mensonge se fait non pas contre votre mari, mais avec lui. Pas tellement pour son bien ou notre tranquillité, écrivez-vous, mais avec. Il participait.
Oui, d'une certaine manière, je dis, quelque part, j'ai beaucoup menti, mais j'ai très peu trompé. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les choses étaient présentes à un niveau ou à un autre pour tout le monde. Et qu'elles étaient belles ainsi. En fait, la beauté me paraît plus importante que la vérité. En ça, je serais volontiers gréco-nietzschéenne.
Il n'y a pas seulement la beauté. Vous parlez de la bonté de façon magnifique, oui. Je trouve. Vous parlez de la bonté à propos de votre mari. Vous dites à un moment... C'est comme si vous, s'il y avait trois vertus dont vous parliez. L'une qui est la capacité de voir de haut, de voir, d'avoir une vision large des choses. Une autre qui est la capacité de, en gros, d'anticiper, de voir le coup d'après, de jouer. Enfin. Et puis l'autre, qui est la dernière, qui est la bonté. Et je trouve que ce que vous dites qui m'a touché, fait rire, et je me suis senti très proche, c'est quand vous dites, moi j'ai choisi notamment pour sa bonté, mais moi je ne suis pas bonne.
Oui, c'est ça.
Vous dites, non, je ne suis pas méchant.
C'est ça.
Mais je ne suis pas bonne.
Non, je ne suis pas bonne.
Sur la beauté, vous écrivez ceci, qui est admirable, page 177. La culture, ça s'apprend. La beauté du monde, ça s'apprend aussi. S'il existe un devoir politique, c'est de les enseigner, c'est-à-dire d'ouvrir les possibles.
Oui. Oui. Enfin, je pense que c'est la meilleure manière de parler aux enfants. C'est d'ouvrir les possibles. C'est même, je crois, la seule manière qui porte ses fruits.
Mais ça veut dire que la beauté, c'est pas seulement ce que l'on ressent, l'émotion qui vous traverse, c'est quelque chose que l'on peut apprendre.
Oui. Je pense que regarder, être sensible au monde, entendre... Moi, il y a des choses... La musique, j'ai besoin qu'on me l'apprenne. Bon, on ne me l'a pas apprise quand j'étais petite.
Vous voulez dire que vous n'y êtes pas immédiatement sensible?
Non, j'ai besoin qu'on me l'apprenne. Voilà. Et ce qu'on m'a appris, j'ai toujours trouvé ça beau. On m'a appris le grec. Je trouve ça beau. On m'a appris à travailler un texte. Oh, mais c'est magnifique. Bon... on m'a pas... je sais pas, il y a des choses qui me manquent beaucoup, que j'ai envie d'apprendre. On m'a appris quelques langues. Moi, j'ai envie d'apprendre maintenant, c'est embêtant, je suis un peu vieille pour ça, mais je voudrais bien apprendre l'hébreu, l'arabe et le chinois. Ça m'intéresserait. Voilà. Ça, j'en ai vraiment envie. Bon. Quelqu'un pour m'ouvrir ces possibles-là, s'il vous plaît.
Il y a beaucoup de personnages qui traversent cette autobiographie. Un couple étonnant. Étonnant. Pardonnez-moi, mais René Char et Martin Heidegger. D'un côté, le capitaine Alexandre, celui qui fut le chef du maquis du Vercors en 1943, le grand résistant, et de l'autre, le grand nazi, Martin Heidegger.
Oui, on ne le savait pas à ce point-là, grand nazi, au moment où ils se rencontraient. Mais enfin, bon, tout le monde savait qu'il avait écrit le discours de rectorat.
On ne le savait pas quand même.
On n'avait pas lu les cahiers noirs. Tout ce que je veux dire.
Qu'ont-ils pu se dire? On voit cette photo où René Char et Martin Heidegger sont côte à côte. Vous racontez la promenade, vous y étiez. Vous racontez cette promenade où côte à côte, Heidegger et Char...
Ils étaient tous les deux passionnés par la poésie et la philosophie. Et dans quelle conjonction Heidegger a écrit sur Hölderlin, sur Trakl, sur Parménide. Bon. Et Char écrivait des poèmes et lisait les présocratiques dans la première traduction. Évidemment que ça, c'était du matériau pour leur rencontre.
Était-ce une façon d'éviter de parler de la résistance et de la guerre?
Je pense que, à ma connaissance... En tout cas, devant moi, ils n'en ont jamais parlé. En revanche, le fait que Heidegger soit chez Char à un moment donné, c'était quand même un sacré, on va dire, alors je n'ai pas de bon mot là-dessus, mais enfin, on va dire dédouanement, peut-être. Hein. Et que moi-même, Cassin, avec Patrick Lévy, qui traduisait à ce moment-là Hannah Arendt, quand même des noms très juifs, qu'on soit là aussi. Moi, je ne m'en rendais pas du tout compte à l'époque que ça pouvait avoir le moindre sens autre que l'immense plaisir et même l'immense honneur d'être là à les entendre. Mais en tout cas, Heidegger disait à René Char, voilà, nous sommes sur deux collines très éloignées, deux montagnes, et nous, vous, poète, moi, philosophe, nous nous faisons de grands signes. Bon. Et Char répondait, moi, je dirais plutôt, je ne pense pas tout à fait comme ça, je pense qu'on est plutôt deux prisonniers dans des culs de basse fosse, séparés par une muraille, et on fait toc, 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 et puis peut-être qu'on entend toc, toc, toc de l'autre côté, où il y a un petit trou, et on souffle. Bon. Donc, vous voyez, là, pour moi, eux se dessinent tout entiers.
C'est vrai.
Voilà.
Est-ce qu'on ressemble à son nom, Barbara Cassin, à son prénom?
Je veux dire, l'éponymie est un phénomène qui existe. Regardez, l'éponymie, c'est-à-dire ep, sur, suivant, et onoma, le nom. Donc, le fait qu'on ressemble à son nom, pas seulement au nom propre, mais au nom commun. Est-ce qu'une rose ressemble à une rose? Oui, un peu.
Est-ce que Barbara ressemble à une barbare?
Oui, oui.
Qu'y a-t-il de barbare en vous?
Blablabla. Je voulais appeler ce livre Barbara Blablabla. Blablabla, c'est Barbara. C'est bleu, bleu, bleu. Babawos. Babawos, c'est le bruit que font ceux qu'on ne comprend pas quand on est grec. Hein, c'est les autres. Donc, les berbères sont des barbares. Barbara, c'est le même jus. Donc, je pense que j'ai un peu choisi mon nom. Et je me suis un peu conformée à lui. Et ma mère s'appelait Hélène, celle qui prend et qui est prise.
Hélène de Sparte.
Oui.
Pascal, par exemple, vous avez le sentiment que votre nom a consonance évidemment
religieuse,
chrétienne,
le vendredi
aussi,
saint, pour parler juive. Je crois tout simplement aussi que avec les récits que portent nos prénoms, nous travaillons ensuite pour se corriger auprès d'eux, pour essayer de les domestiquer un peu ou de s'en éloigner. Il y a beaucoup de personnes aussi qui changent de prénom. J'ai connu beaucoup de femmes qui changeaient leur prénom.
Vous en avez connu beaucoup?
Ah oui.
Ah oui.
Oui. Même ma propre sœur a supprimé son prénom. Non.
Comment s'appelait-elle?
Elle s'appelait Marianne, elle a préféré s'appeler Marie. Non, elle coupe, on joue, il y a des... Vous ne connaissez pas
Je vais chercher, mais je suis sûr qu'on va le trouver. Donc, et Emmanuel, vous êtes le Messie exemple.
Comment?
Emmanuel, vous êtes le Messie?
j'ai pas de réponse spirituelle là tout de suite, je dirais. Je passe mon tour.
C'est pas seulement des réponses spirituelles, parce que le chapitre que Barbara Cassin consacre justement à cette question... du nom que l'on porte, du prénom que l'on porte, est passionnant. Vous dites, en réalité, vous avez toujours été barbare en philosophie, c'est-à-dire sur les bords. Vous avez raté, par exemple, vous avez raté 8 fois l'agrégation de philo.
Oui, il faut le faire.
C'est, en même temps, oui, elle le dit en souriant.
Ouais.
Vous faites d'ailleurs un très bel éloge du ratage.
Oui.
Qui n'est pas l'échec.
Non, c'est « I prefer not to », mais je veux dire, pour l'agrégation, j'aurais préféré l'avoir. C'était plus simple dans ma vie. Mais je trouve que le ratage est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est pas la peine d'être grand clerc et d'avoir lu Lacan pour le savoir.
Une expression étrange revient souvent sous votre plume, vous l'avez remarqué, Emmanuel. 36 fesses font 18 culs.
Ah, elle est formidable, celle-là.
Alors, excusez-moi, je m'adresse à la philosophe. Ça veut dire quoi, ça? 36 fesses font 18 culs, ce qui est arithmétiquement parfaitement exact.
Voilà.
Mais encore.
Bon, c'était la grand-mère de ma mère qui était sabotière savoyarde et qui avait quelques expressions comme ça. Et 36 fesses font 18 culs, ça ponctue parfaitement une grande dissertation de philosophie. Je veux dire, quand on entend un philosophe qui se met à parler et à parler et à parler, je comprends que toutes les sabotières savoyardes du monde, c'est-à-dire moi, concluent 36 fesses font 18 culs.
Voilà, Barbara Cassin.
Je la garde en tête. Hein.
Barbara Cassin, la seule philosophe capable, dans la même phrase, de vous citer Aristote, Leibniz et Sylvie Vartan. Il y a une philosophie de Irrésistiblement. Tube des années 1968.
Moi, j'ai adoré ce tube. J'ai trouvé ça très beau. Et j'ai trouvé qu'en effet, il y a des attirances irrésistibles.
Le bonheur, sa dent douce à la mort de Barbara Cassin vient de paraître aux éditions Fayard. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du côté des librairies indépendantes. Vous êtes très nombreux à leur apporter chaque semaine, chaque jour, leur soutien depuis maintenant quelques mois. Un élan de solidarité qui est salué cette semaine par Anne-Lise Potet. En 2014, elle a créé sa librairie, Lise et moi, à Vertou, c'est près de Nantes. Et c'est Inès de la Motte Saint-Pierre qui vous sert de guide.
Il y a un grand élan de solidarité aujourd'hui en librairie qui fait plaisir à voir. Et oui, il y a une forme d'urgence de retrouver, de remplir à nouveau ces bibliothèques qui ont été bien lues et bien vidées pendant le confinement. Ce que je transmets tous les jours à la librairie, c'est de souhaiter à tout le monde de vivre d'autres vies que la leur. C'est une très belle aussi définition de la société aujourd'hui, d'accepter la vie de l'autre. C'est pas la mienne, on me demande pas de la vivre, mais j'essaye de la comprendre. La bonne grosse claque, c'est le livre de Russell Banks, Lointain souvenir de la peau. Il a tout dans ce livre. Il nous oblige à nous poser la question du bien et du mal sans jamais répondre à notre place. C'est un livre que j'ai beaucoup fait lire en club de lecture. Les réactions sont dingues à chaque fois. Le livre pour une nuit d'insomnie, Les garçons de l'été, de Rebecca Leggeri. Tout le monde en prend plein la vue. Elle décortique tous les enjeux psycho-affectifs d'une famille, la chute des uns et des autres, le poids de l'adolescence. Ça finit mal. C'est génial. Le livre punk, c'est Bataille, pas l'auteur, d'Aurélie William Leveau. C'est les chroniques douce-amère d'une jeune artiste belge qui a un côté de temps en temps 40 ans, fille perdue, cheveux gras. Elle aime bien piquer là où ça fait mal. Chaque chapitre se finit de manière cinglante. C'est rock et c'est punk, ça fait du bien, ça réveille. Mon kit de survie, Tous les matins du monde, de Pascal Quignard. Parce que dans ce livre-là, il y a cette magnifique phrase « Tous les matins du monde sont sans retour ». Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai su que le matin où j'ai découvert le décès de mon papa, la fatalité de la vie qui tombe sur les personnages des romans m'était aussi tombée dessus, mais que j'étais pas toute seule à les vivre. Et elle m'a fait croire au nouveau matin qui allait recommencer sans cesse. Et je me suis accrochée à ça.
Quelle déclaration ! Vous doutiez-vous ? Pascal Quignard, en écrivant ce livre, il y a maintenant presque 30 ans, en 1991, vous doutiez-vous qu'un jour, une jeune femme vous dirait cela ?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais le thème du matin est un des plus beaux thèmes qui soit au monde. Et c'est même peut-être dans le jour, lorsqu'on passe de l'aube à l'aurore, lorsque le soleil après vient éclairer le blanchiment de l'aube, il y a quelque chose qui porte la vie plus que le crépuscule ou que le zénith.
On sait ce qu'on fait quand on écrit un livre comme Tous les matins du monde ou un livre comme Yoga.
Pas ce qu'on fait. On ne sait absolument pas ce qu'on fait, ni si on va le finir. On sait en effet qu'on est pris par quelque chose qui fonce, qui fuse, comme le nom et aussi la phrase d'attaque. Quelque chose là s'échevelle et ça fonctionne très 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 vite. Ou alors, si ça ne fonctionne pas, il faut abandonner le livre.
Mais est-ce que vous vous doutez une demi-seconde que peut-être vous changerez la vie, la manière de voir les choses d'une jeune femme ?
Non, même pas la mienne. Non, on ne peut pas penser à ça.
L'homme aux trois lettres. Ah, quelle déclaration d'amour à la littérature et à la lecture que ce livre, Pascal. J'aime les livres, écrivez-vous, dès la première ligne. Qu'un écrivain le disent, c'est une chose, mais qu'un écrivain commence son livre par cette phrase « J'aime les livres, j'aime leur monde, j'aime être dans la nuée que chacun de forme qui s'élève, qui s'étire. »
Mais c'est vrai.
11e volume de la suite littéraire que vous avez débuté il y a maintenant près de 20 ans, qui vous avait valu le prix Goncourt, qui s'intitule « Dernier royaume ». Ce volume tente de répondre à la question « Qu'est-ce que la littérature ?» On va commencer par l'éloge de la lecture et des livres. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acte de lire ?
Se perdre. On ouvre un livre, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle va être son émotion, le corps s'oublie, on est pris par une histoire, on est pris par quelque chose, par une quête, et on s'y enfonce, ou on s'y envole comme un oiseau dans le ciel. C'est ça, c'est cette dépossession totale, cette absence d'identité qu'il y a dans la vraie lecture qui en font pour moi des plus beaux, plus belles expériences.
J'éprouve, écrivez-vous, de l'excitation. Excitation, c'est le mot exact ?
Ça dépend des livres, ça. Ah non, je parlais de façon générale, je ne pense pas, non, ça dépend des livres. L'excitation, quelque chose, il fallait quelque chose qui m'excite pour pouvoir être excité. Il y a des livres qu'on ne lâche pas, il y a des livres qui vous prennent complètement et qui, en effet, excitent le cerveau. Il y en a d'autres qu'on aime uniquement pour leur tristesse ou leur mélancolie ou pour les passages, comment dire, de description et non plus d'intrigue. Mmh.
Vous ajoutez, j'aime vieillir dans leur silence. Oui. Vieillir.
Oui. Il y a un avantage extraordinaire à vieillir, c'est que l'on peut comparer. Bien sûr, quand on lit son premier livre, on ne peut le comparer à rien. Mais lorsqu'on a beaucoup, beaucoup lu, on peut beaucoup, beaucoup comparer. De même, si l'on a connu beaucoup, beaucoup d'aubes, on peut les trouver de plus en plus merveilleuses. Quand on a beaucoup lu, on peut voir, en effet, on apprend de la beauté, on apprend ce qui est bon, ce qui est haut, ce qui est bas. Et c'est une expérience qu'on ne peut faire que finalement, pour parler comme Sophocle, quand le taureau sauvage s'est éloigné un peu de nous.
Qui est le taureau sauvage ?
C'est la sexualité.
C'est la sexualité.
Selon Sophocle. Je ne sais pas à quel âge il a dit ça, mais c'est une belle phrase. C'est une belle phrase.
Il faut que la sexualité s'éloigne pour goûter
non,
l'état.
Je ne fais pas de phrase définitive. Je ne suis pas moraliste, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas. Je ne dis pas du tout ça. Non, je dis qu'il faut, comment dire, avoir beaucoup lu pour être encore plus heureux de lire.
Qu'est-ce que le lecteur découvre que celui qui ne lit pas ignore et ignorera toujours ?
Ah, je pense, cet appétit de ce qu'on ignore, cet appétit de l'inconnu. Celui qui ne lit pas reste dans l'acte, reste dans le réel. Il ne connaîtra jamais cette hallucination, cette hypnose-là.
Emmanuel Carrère.
Oui, je suis d'accord. Je pensais aussi quand Pascal Quignard, enfin vous parliez de l'excitation, je pensais en vous lisant que il y a deux espèces de livres, il y en a beaucoup plus, mais il y a ceux qui sont des livres qui, vous savez, qu'on lit d'une traite, qui sont ce qu'on appelle en anglais des page turners, qui sont des livres qui vous tiennent captif pendant le top, voilà. Et on a envie qu'une chose, c'est de foncer de la première à la dernière phrase. Et puis, il y a d'autres livres où, au fond, on a envie, d'une page à l'autre, justement, de lever la tête, d'aller regarder ailleurs, de regarder le ciel, de regarder, de suivre ses pensées, où, justement, le livre ne vous rend pas captif, mais au contraire, d'une certaine manière, vous libère et vous donne une espèce d'accès vous rend à vous-même, vous rend au monde, et puis on y revient, il vous rend de nouveau. Et en tout cas, moi, c'est la forme de compagnonnage que j'ai avec vos livres. Voilà, je rentre dedans, et puis je sais que je vais en sortir, vivre, et que ce que je vais vivre, voir, tout ça va être coloré par ce que j'ai lu, et puis que je vais y revenir et avancer comme ça. C'est une autre expérience de lecture qui est somme toute pas si éloignée de la poésie, enfin, où il y a quand même une...
Ça ne répond pas à un genre. La poésie, c'est encore un genre, c'est encore une posture. Je ne parle pas des très grands poètes, mais ce que vous dites me plaît beaucoup, parce que c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire quelque chose d'océanique, c'est-à-dire quelque chose sur lequel je ne peux pas avoir de point de vue panoramique, je ne peux pas maîtriser. Océanique, je mourrai dedans, donc la fin, ce ne sera pas moi, ce sera ma mort qui décidera de la fin de l'ensemble. Et de chapitre en chapitre, il me fallait une forme où le chapitre qui suit soit le plus imprévisible pour celui qui précède, afin de faire surgir un peu de lave et un peu d'inconscient. Et là, c'est un acte volontaire que de faire le plus différent. C'est un peu ce que j'ai fait au théâtre en faisant venir au théâtre de l'imprévisible, en me faisant appel à une corneille et à une chouette vivante qui désordonnait dans l'émotion tout ce qui se passait. Et ces imprévisibles-là, c'est ce que vous dites, c'est lever la tête ou la plonger ou peu importe, mais c'est une possibilité erratique de se perdre.
Vous écrivez... On reste dans, justement, la question de l'écriture et de la lecture. Je déteste les styles parfaits. Alors, Évidemment, on a la philosophe qui déteste la vérité. Nous avons l'écrivain qui, lui, veut à tout prix savoir où il va. Et alors maintenant, le grand styliste, vous, Pascal Quignard, qui écrit « Je déteste les styles parfaits et monotones ou puristes ». Et vous ajoutez, je me demandais si c'était Quignard qui écrivait ou Stephen King, « Il faut sentir dans le style même, comme sous le pouce, le battement de l'artère de la victime qu'on va égorger ».
Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on sente quelque chose dans ce qu'on écrit. D'autre manière, j'admire, il y a des œuvres que j'admire énormément. Des styles qui n'ont pas un mot de trop, les styles jansénistes, qui sont parfaits. J'en suis pas capable, donc je les trouve parfaits. Mais ça manque de vie, ça manque de pulsion. Non, je préfère quelque chose qui emporte l'âme.
Il y a quelque chose de fascinant, écrivez-vous, à voir quelqu'un lire en silence. Qu'est-ce que vous trouvez de fascinant dans la contemplation d'un homme, d'une femme qui lit en silence?
Il y a véritablement une absorption du visage des gens qui lisent dans le métro, partout. C'est une attitude très particulière. C'est comme si on voyait le cerveau lire, parce que le corps n'est vraiment pas tout à fait là. Il y a la célèbre scène de saint Augustin qui tombe, qui devient chrétien parce qu'il voit dans la basilique de Milan saint Ambroise dans sa chair qui lit en silence. Et lui, ce grand rhéteur et ce grand sophiste, il se dit c'est encore mieux. Mm. Il y a dans le silence des livres quelque chose qui vient peut-être de la première poche dans le ventre des mères, quelque chose qui absorbe, qui a un contenant. Il y a dans les livres un contenant à l'état pur.
Lire, c'est naître, dites-vous à plusieurs reprises, écrivez-vous à plusieurs reprises. De quelle manière?
Ah, moi, ça change à chaque fois. Ça peut transformer la vie, de lire. Il y a des livres qui transforment la vie. Il y a des phrases qui transforment la vie. Cette libraire merveilleuse, ça m'émeut. Bien sûr, on n'écrit pas pour transformer la vie des gens. On n'écrit même pas pour transformer sa propre vie. On plonge dans l'océan.
Quelles phrases, quels livres ont transformé votre vie?
Le premier que j'ai lu seul, c'était Les Mémoires d'un âne, qui se fait battre de partout et qui rejoint la forêt de l'aigle.
Et ça a transformé votre vie?
Oui. Cette histoire, c'est un peu que la chef de M. Seguin, puisque la pauvre petite Pauline, on lui refuse l'âne, elle meurt parce qu'elle n'a plus son âne. C'est une histoire très triste, mais qui m'a beaucoup, beaucoup touché.
Vous faites, Pascal Quignard, à travers l'éloge de la lecture, en réalité aussi un autre éloge, celui du retrait, celui du repos, mais du repos du monde, du retrait, ce que vous appelez le recoi. Qu'est-ce que le recoi ?
Le recoin, c'est une traduction du XVIe siècle. Le recoin, c'est bien sûr... Vous savez, on parle de peinture couate pour dire nature morte à l'époque. Être quoi, ça ne se dit plus. On ne dit plus... Enfin, c'est le silence, c'est des peintures silencieuses. Le recoin, ça vient de requiem, ça vient de requiescant, c'est se mettre à... C'est le repos, c'est se mettre à l'écart, se mettre dans un coin, dans un recoin et se... Et c'est vrai que les livres sont des coins, sont des recoins, et c'est vrai que l'on s'écarte du monde où l'on vit quand on se plonge dans un livre et qu'on est heureux de s'écarter, de se mettre à l'écart du monde où on vit. De là à croire que le monde où on vit, quand il est imaginaire, serait plus imaginaire que le monde vrai ou réel, ou comment dire, officiel, c'est absolument faux. Il y a autant de mondes et d'hallucinations, et le voile de Maya est total, sauf pour ceux qui croient en la vérité.
Arrêtez de masticoter là-dessus.
Ouais. Vous n'allez pas le déchirer, vous, le voile de Maya. Jamais.
Il est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ce recoi, ce retrait, vous avez quand même été beaucoup plus loin que le lecteur normal, parce que vous l'avez expérimenté il y a quoi, 25 ans maintenant, en décidant de vous retirer de toutes les charges sociales que vous occupiez. Vous étiez alors... je crois, numéro 2 des éditions Gallimard, très prestigieuse maison. Vous étiez directeur d'un festival de musique classique. Vous travailliez avec le ministre de la Culture. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous décidez de pousser le retrait, le recoi jusque-là? C'est le lecteur en vous qui parle?
C'est une date anniversaire. C'est, au bout de 25 ans, je me suis dit, je vais pas, ou je continue pendant 25 ans. Et je m'enrichis parce qu'on perd beaucoup d'argent avec le... Bon. Mais peu importe, en se retirant. Ou bien alors, je change de vie complètement, j'annule tout ça. j'ai montré que ce qui m'était le plus pénible à faire, j'en ai été à peu près capable. Maintenant, je me donne le bonheur comme tâche. Et j'ai flotté pendant 6 mois, et j'en suis parfaitement heureux maintenant.
Le bonheur, c'était ça votre but ?
Non, c'était de dire adieu aussi, c'est un plaisir aussi.
J'essaie de comprendre comment... J'essaie de comprendre, Pascal Quignard, comment le maître S, leçon de ténèbres que vous êtes, concilie les ténèbres et le bonheur.
Les autres étaient difficiles pour moi à vivre et à supporter. Le bonheur, je le croyais, était solitaire. Maintenant, je me suis rendu compte que j'aime énormément, lorsque j'ai fait Radio France, être dans un orchestre, être dans la musique, vous en parliez un peu, la dilution qu'on est dans la musique, être dirigé par un chef d'orchestre. Là, ce sont des communautés silencieuses, mais que j'aime bien. Mais essentiellement quand même, être seul au bord d'une rivière, sur une montagne, au bord de la mer et contempler tout ça,
c'est génial.
C'est génial.
Pourquoi est-ce que c'est génial, mais si mal vu ? Pourquoi est-ce que les gens qui lisent, les gens qui aiment cela, qui cherchent le beau, sont parfois montrés du doigt ? Vous-même, vous l'écrivez, page 155, vous rappelez l'aversion, je vous cite, que vous aviez suscitée par votre retrait de tout, l'insulte de votre retrait.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin ou croient qu'ils ont besoin des autres, ont peur d'être seuls, ont peur de l'angoisse d'être seuls. J'ai eu des amis, en effet, qui à la fois m'enviaient, qui me disaient « je pourrais pas ».
Mais l'insulte du retrait, c'est pas tout à fait ça. C'est « être seul m'intéresse plus que vous ».
Oui, ça c'est sûr.
Voilà.
Ouais, c'est très désagréable à entendre.
Très désagréable
et c'est vécu
à entendre.
Comme une insulte.
Ah oui.
Et ça en est une, peut-être.
Ouais, c'en est une.
C'est pas fait pour.
Non, bien sûr.
C'est pas aussi agressif que ça.
Non, mais on peut comprendre qu'il y ait ça dessous et que c'est ça qu'on entende quand on entend mal.
C'est la même insulte que ressentent les amoureux lorsque les sociétés veulent absolument s'en séparer, qu'ils rejoignent le groupe aussi. Oui.
Vous écrivez, Pascal Quignard, page 136, « Une vie totalement dévouée à la lecture des livres entraîne des conséquences redoutables. » Ah, alors jusque-là, tout allait bien. Quelles sont-elles, ces conséquences redoutables ?
Bien sûr, le fait de privilégier, comment dire, cet état de récupération personnelle à l'aube de chaque jour, et même d'imposer à ceux avec qui l'on vit le fait de n'avoir jamais de vacances ni rien, c'est quelque chose qui est forcément un peu dur à subir pour ceux qui vivent avec nous. Je crois, je suppose. Je me pose pas la question parce que c'est comme ça.
On a parlé des lecteurs, mais j'aimerais qu'on parle des écrivains. Vous les qualifiez ainsi au tout début du livre. Race de fainéants qui n'aiment que le lit et l'ombre.
Ça, c'est une phrase romaine, ça. C'est une très belle phrase romaine que je cite surtout pour cette traduction magnifique de fainéant, parce que ceux qui font néant, c'est quand même une vocation bouddhiste, ça.
Vous ne le dites pas en mauvaise part.
Ah non, je le dis fainéant.
D'aucune façon, un reproche qui est adressé à la corporation.
Absolument, mais c'est vrai que rester dans son lit et prétendre que c'est là où on travaille et que à 10h ou 11h du matin, on a fini de travailler, c'est à la fois enviable, mais c'est en effet peut-être un peu insultant pour ceux qui ne vivent pas ainsi.
Il y a des choses très très belles sur les fainéants. Par exemple ceci, fainéant est un mot français magnifique. Faire néant, c'est l'être. Pas mal, hein ? Comment la philosophe habituée de l'être et du néant comprend-elle cette très belle phrase ?
Faire néant, c'est être néant ? C'est ça que vous voulez dire avec le L apostrophe ?
Non, c'est l'être lui-même.
C'est l'être, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai d'abord entendu « faire néant », c'est « être néant ».
Et puis, même.
Bah, pas tout à fait, parce que l'être, c'est pas ce qu'on est soi.
Mais j'ai l'impression que Pascal Quignard est davantage du côté du néant, ou de l'envie du néant.
Non.
Et c'est la même chose.
C'est la même chose. Mais j'ai une préférence, en effet, pour le vide qui permet d'être rempli. Oui. Je préfère la faim à la satiété, je préfère le désir, même mon plaisir.
Qu'est-ce que la littérature ? C'est au fond la question que pose ce livre. Vous répondez à un moment, le mot auquel nous vouons notre vie est une énigme. Personne ne sait ce que c'est, la littérature.
Vous savez, c'est une belle histoire et triste histoire. C'est le dernier cours qu'Émile Benveniste a donné au Collège de France. Ensuite, il a eu cet AVC qui a fait qu'il n'a plus jamais pu parler. Et il commence son cours en disant « Ce serait quand même bien intéressant qu'on sache ce que veut dire lettres, littérature, littéra. Ça serait quand même très utile, mais on ne sait pas. On ne voit absolument pas d'où ça peut venir. Est-ce que c'est diphtéra ? C'est pas possible. Les pots sur lesquels on écrivait. » Il évoque un certain nombre de possibilités, dit non, on ne sait pas ce que c'est. Et comme je ne crois pas personnellement que la littérature est une fonction, je trouve merveilleux qu'elle n'ait pas d'étymologie. C'est vraiment l'énigme.
Elle n'a pas de fonction, la littérature ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une chose tout à fait singulière que la langue a une fonction. La langue, le dialogue, la position des personnes, c'est très utile pour nous. Nous nous croyons « je », nous nous croyons « tu », même si nous errons en nous croyant « tel », nous pouvons dialoguer, nous pouvons faire des récits. Bon. Mais arrive, nous parlons comme cela, l'un devant l'autre, de la bouche à l'oreille de l'autre. Arrive cette invention incroyable où la bouche s'éteint, l'oreille et l'interlocuteur sont anéantis, il ne reste plus qu'une main, qu'un œil regarde. Et la langue est devenue silencieuse. C'est une invention absolument insensée. Et c'est ça, l'écriture a donné naissance à la littérature, à la première lettre en Mésopotamie, la première lettre imaginaire à quelqu'un qui n'existait pas.
Parmi les personnages qui traversent votre livre, et Emmanuel Carrère le disait tout à l'heure, alors ça fait partie aussi du charme, du style Quignard, hein, on lit, on est entre érudition, rêve, poésie, parfois philosophie peut-être, Barbara Cassin, quand
sûr,
on lit du Pascal Quignard. Parmi les très nombreux personnages qui traversent ce livre, il y en a un sur lequel j'aimerais que nous revenions, Cicéron. Alors, on nous parle beaucoup de Cicéron, comme du grand orateur, du grand juriste. Parfois, on nous dit que c'est un homme de mauvaise vie, absolument pas fréquentable. Mais jamais on nous raconte ce que vous racontez, qui est à la fois effrayant et sublime, la mort de Cicéron. Comment Cicéron est-il mort et qu'est-il advenu de sa langue ?
Il s'est enfui, il était condamné à mort, il s'est enfui, il a pris un bateau, il est arrivé à Gaète, il est sorti, il est monté dans une litière, un centurion l'a appelé, il l'a poussé la tête hors de la litière, il l'a lui tranché, le centurion a pris la tête de Cicéron et l'a apporté à Antoine. Et la femme d'Antoine, très superstitieuse, a demandé un fil, a cousu les lèvres de Cicéron afin qu'il n'aille pas se plaindre aux enfers.
Qu'est-ce que c'est
romain, c'est
extraordinaire.
C'est du pur rhum, ça.
Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit ?
De boucher la bouche de celui qui écrit, que le grand rhéteur devienne un tout petit peu écrivain, ça me ferait plaisir. Ce n'est pas une passion, ce n'est pas du tout l'œuvre romaine que j'aime le plus, celle de Cicéron. J'aime cette fin, en effet, d'une grande cruauté, et qui voue celui qui a trop parlé au silence.
On va essayer de ne pas trop parler, je crois qu'on a déjà dit bien des choses ce soir, et nous allons rejoindre le silence. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé, Barbara Cassin, Emmanuel Carrère et Pascal Quignard, dont le nouveau livre s'intitule « L'homme aux trois lettres » chez Grasset. Merci à vous d'avoir suivi cette grande librairie, ce nouveau chapitre. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission en replay sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter également en balado-diffusion, comme on dit à l'Académie française, Barbara Cassin, pour ne pas dire podcast, sur toutes les plateformes donc disponibles de podcast. Vous pouvez également vous connecter dorénavant aux réseaux sociaux, répondre à la question qui va vous être posée dans un instant, et puis repartir avec les livres de nos invités. Voilà, la semaine prochaine, nous parlerons de la langue française avec Alain Mabankou, Faizagen, Negar Djavadi, avec Jean Pruvot, puis je vous emmènerai faire un tour aux États-Unis chez David Joy. On se retrouve tout à l'heure pour La Petite Librairie, et tous les jours d'ailleurs, puisque maintenant La Petite Librairie, c'est tous les jours sur toutes les antennes de France Télévisions. Bonne lecture, à la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.